L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous et bonne fête de Pâques, puisque c'est encore temps. Je reçois aujourd'hui le collectif de l'éthique sur l'étiquette, Pierre Bourguet et José Forneron. Et nous pensons bien sûr à ce 25 avril, qui sera le 6e anniversaire de la catastrophe qui est arrivée au Rana Plaza. Alors nous en parlions évidemment chaque année, mais il faut rappeler ce qui s'est passé ce jour-là.
Oui, alors on peut rappeler ce qui s'est passé et peut-être indiquer dans quel climat ça s'est passé. Vous rappelez Rana Plaza, c'est plus de 1000 morts. C'est une usine qui s'était effondrée sur ses salariés avec une impossibilité de se sauver et une impossibilité aussi de trouver des responsables. Chacun rejetant cela sur les uns sur les autres, mais on a trouvé quand même dans les décombres des étiquettes indiquant vers qui ça devait aller. Donc on se trouve devant un problème que beaucoup de gens veulent traiter, et notamment éthique sur l'étiquette. Donc on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, mais peut-être qu'il faudrait un petit peu rappeler ce que c'est que ce marché du vêtement, un petit peu, qui finalement est à l'origine de tout ça. Alors, ce marché du textile, c'est un des plus gros marchés disons, du monde, hein. C'est 470 000, voire 500 milliards d'euros. Ça fait travailler 60 millions de personnes. Et tout ça pourquoi? C'est pour vendre des vêtements. Et souvent, les acheteurs de ces vêtements, ce sont des jeunes. On dit que les jeunes dépensent entre 600 et 650 euros, les jeunes, on dit de 15 à 25 ans, pour s'habiller. Donc c'est un marché considérable et qui est donc est partagé par
quelques pays. Qui touche tous les milieux.
Qui touche tous les milieux, qui est partagé, la production est partagée dans quelques pays dont on va parler, et surtout partagée par quelques gros fabricants. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on va commencer, si vous voulez, cette émission, en disant que derrière tout cela, il y a des problèmes qu'on va évoquer, qui sont des problèmes éthiques, des problèmes environnementaux, des problèmes sanitaires, des problèmes sociaux. Donc tout ça, ça se cache derrière cet anniversaire du Rana Plaza. Et comme le rappelait il y a un instant Madeleine, ça fait 6 ans, mais on a l'impression que les choses n'ont pas énormément bougé. Alors le marché du textile, a à sa tête deux grands pays, la Chine et le Bangladesh, où s'était justement passée cette catastrophe. Et donc il serait peut-être un petit peu intéressant de savoir comment les choses se passent. Alors on va laisser de côté la Chine puisque c'est pas là que ça s'est passé. On va parler du Bangladesh. Le Bangladesh, c'est 165 millions d'habitants, c'est 4500 usines, c'est le deuxième marché mondial, 3,5 millions d'ouvriers et des exportations considérables qui représentent 99% des exportations quasiment du Bangladesh. Alors, la question revient régulièrement
dans l'actualité.
Voilà, puisque vous avez peut-être noté il y a quelques mois, ça a commencé en juillet, puis ça s'est terminé au mois de décembre, des manifestations pour justement réajuster les salaires. Hein, il faut savoir qu'il y a un salaire minimum qui est très 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 bas, qui est de l'ordre de 50 euros de l'ordre de 50 euros par travailleur et qui est monté à la suite des manifestations un petit peu...
Salaire mensuel.
Oui, mensuel. Hein, quand on voit ce qu'on touche dans nos pays, ça, voilà. Et ils ont réussi à le faire passer à 80. Hein, donc c'est un salaire minimum qui est ridicule, et cette amélioration du salaire minimal qui... Si on écoute bien ce qui se dit, ne permet pas justement d'être un salaire vital, puisqu'il faudrait qu'il soit trois fois plus élevé. Et face à cela, il y a des travailleurs dont le salaire lui-même n'a pas été augmenté. On a augmenté le salaire minimal, mais pas le salaire, disons, moyen. Donc la situation reste quand même très, très, très compliquée, très, très complexe. Et on se demande un peu comment les choses vont tourner. Et donc c'est là que nos sociétés, qui sont finalement les consommatrices, parce qu'on évoquait les
étiquettes qu'on a trouvées dans les décombres.
Et alors, si on regarde bien, il y a grosso modo quatre grands groupes. Vous avez le groupe H&M qui est suédois, vous avez le groupe Zara qui est espagnol, vous avez le groupe Gap qui est américain, et vous avez le groupe Uniqlo qui porte un autre nom, qui est japonais. Donc c'est eux qui se partagent l'essentiel des marchés en multipliant, en rachetant des marques autant qu'ils le peuvent et qui ouvrent des magasins un petit peu partout dans nos régions. On peut voir dans toutes nos villes des magasins qui s'ouvrent et qui sont des magasins de vêtements, souvent à des prix intéressants pour nous, mais qui laissent vraiment des centimes à ceux qui les fabriquent. Et c'est en ce sens-là que ça pose un problème éthique. Et parce que c'est pas juste. Quand on prend des vêtements type jean, etc., on s'aperçoit que le travailleur de base ne touche que quelques centimes sur la fabrication d'un jean. Donc là ça pose des questions. Ça pose des questions aussi parce qu'il travaille dans des conditions, disons, sanitaires épouvantables. Ça pose un problème parce que ils ont aucune possibilité de se défendre. On parle de syndicats qui négocient avec le gouvernement ou avec les entreprises, mais c'est très très difficile de se syndiquer aussi. Donc on est face à un problème qu'il nous faut absolument dire à tout le monde pour que, au moment où on achète quelque chose, on se pose quand même un petit peu la question.
Oui, sûrement. D'ailleurs, en ce moment, on voit naître aussi des entreprises qui font du réaffistolage de vêtements, qui prennent les vêtements et qui les retransforment pour éviter le gaspillage.
Pour éviter le gaspillage, effectivement, mais quelquefois, il y a des problèmes qui se posent. Il y en a qui rachètent et rachètent les vêtements usagés pour donner une ristourne pour le prochain achat. On est là dans une sorte de spectacle extraordinaire de la, j'allais dire, peut-être c'est un vilain mot, la roublardise des producteurs.
Oui, je voudrais revenir sur l'accident et sur ses suites. En fait, il y a eu, c'était le 24 avril, pas le 25, peu importe. Ah oui. Enfin, il y a eu 1138 morts, effectivement, et des centaines de blessés. Et suite à ça, il y a eu notamment un accord sur la sécurité des usines textiles au Bangladesh, qui a été mise en œuvre sous l'égide de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et qui a permis de faire un certain nombre, avec l'accord des multinationales et des producteurs, des fournisseurs locaux, en tout cas en partie, parce que justement, je vais dire après qu'il y a des problèmes, cet accord a quand même permis l'inspection de 1600 usines sur les 4000, à peu près 4500 dont tu parlais, José. C'est pas évidemment la totalité des usines qui ont été inspectées depuis 5 ans ou 6 ans, mais celles qui ont été inspectées, il y a eu beaucoup d'anomalies et de dysfonctionnements détectés, et on y a remédié à peu près, enfin d'après les chiffres qu'on peut avoir, entre 60 et 70% de ces problèmes ont été résolus sur les usines concernées. Alors ça ne veut pas dire que tout est pour le mieux, puisqu'il y a encore une bonne partie des usines qui n'ont pas été inspectées. Et deuxième problème, l'accord était venu à échéance l'année dernière, en 2018. Il a été reconduit par l'ensemble des marques, des syndicats et du gouvernement, mais il est en train d'être attaqué en justice par un certain nombre de producteurs, de fournisseurs, de sous-traitants locaux au Bangladesh. Et donc c'est très inquiétant parce que le gouvernement semble indiquer que le gouvernement bangladais qu'il faudra tôt ou tard en sortir, l'arrêter, etc. Donc on est actuellement assez inquiet sur la suite de cet accord qui est très très important.
Et que, où en était l'indemnisation ?
Alors l'indemnisation, là par contre, elle a eu lieu à hauteur de plusieurs millions d'euros, je n'ai pas le chiffre exact là sous les yeux, si à peu près si 30 millions de dollars. Bon, c'est une indemnisation à minima, mais quand même qui a concerné la quasi-totalité des victimes ou des ayants droit. Donc on peut considérer que sur ce plan-là, sans être formidable, il y a eu une indemnisation. Par contre, et on vient un petit peu au problème que citait José, sur le problème du gouvernement bangladais, de la situation économique, le gouvernement bangladais s'était engagé à respecter les conditions, les conventions fondamentales de l'OIT, hein, donc à essayer de lutter contre les violations des droits humains au travail. Or, ça n'a pas été fait, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses, et il y a eu, sauf sur le plan des salaires, une augmentation citée par José, effectivement, qui est loin de couvrir les besoins vitaux. Donc on est encore dans une bataille pour obtenir ce qu'on appelle un salaire décent ou un salaire vital. Et donc ça, c'est pas fini du tout. Et par ailleurs, il y a une répression syndicale et difficulté pour les syndicats d'exister et de se faire respecter au Bangladesh. Donc finalement, la situation n'est pas du tout résolue. Il y a eu quelques progrès. Mais le problème, c'est en amont, c'est le système de production, le système de gestion.
Oui, avec les sous-traitants, parce que c'est ça le gros problème, en fait.
Le problème, il vient aussi quand même des multinationales, des donneurs d'ordre et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, parce que si les donneurs d'ordre, les multinationales, n'avaient pas ce modèle de gestion qu'on appelle le juste à temps, c'est-à-dire... Il y a deux critères. La production en flux tendu pour réduire les délais d'approvisionnement, premièrement. Et deuxièmement, c'est la minimisation des coûts de production. Donc ça, c'est les deux piliers du système de gestion et de production juste à temps qui définissent un peu l'économie mondialisée, hein, le système de production capitaliste actuel. Donc, cette minimisation des coûts de production, elle a forcément un impact social et environnemental. Social, c'est-à-dire qu'on va baisser les coûts de production, donc les salaires. Donc, c'est la course au moins-disant social, au moins-disant salarial. Et également, ça a des impacts environnementaux parce qu'on va laisser tomber la protection de l'environnement, on va continuer à polluer. L'industrie textile est une des industries les plus pollueuses du monde, et donc c'est très grave. Donc c'est bien le système de gestion des multinationales qui est en cause dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et c'est celui-là qu'il faut mettre en cause. Et alors, on arrive à les conséquences sur la loi devoir de vigilance, parce que c'est une retombée assez immédiate, ou en tout cas très très importante, de l'accident du Rana Plaza.
Bien sûr. Alors, José, vous avez apporté une musique, justement.
Oui, alors j'ai trouvé une musique qui, sur le Bangladesh, qui date de l'époque, il y a une quarantaine d'années, ou peut-être un petit peu moins, où le Bangladesh était célèbre, non pas pour son textile, mais pour sa famine, ses difficultés. Donc, c'est une chanson de John Baez qui s'appelle Bangladesh.
Bangladesh, 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 Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. The story of Bangladesh is an ancient one, again made fresh by blind men who carry out commands which flow out of the laws upon which nations stand, which say to sacrifice a people for a land. Bangladesh.
Oui, alors Bangladesh nous rappelle aussi que toute cette action menée pour que les multinationales contrôlent enfin leurs filiales et que la loi qui a été adoptée voilà 2 ans sur le devoir de vigilance des entreprises, maintenant il faut en faire le bilan.
Oui, alors la loi a été adoptée, j'en rappelle, donc en mars 2017, voilà, et elle crée une obligation juridiquement contraignante, non seulement pour les multinationales françaises, c'est-à-dire les sociétés qui emploient plus de 5000 salariés en France ou 10000 salariés dans le monde, mais pour l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire donc les sociétés mères, les grandes sociétés, les grandes entreprises, et leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Donc ça, c'est très important parce que c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui est concernée. Donc, pour toutes ces sociétés-là, il y a une obligation maintenant d'identifier et de prévenir les atteintes aux droits fondamentaux au travail et les atteintes à l'environnement. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et cette obligation impose aux sociétés donc transnationales concernées de mettre en œuvre un plan de vigilance qui comprend une cartographie des risques précises, hein, quels sont les risques de violation d'atteinte aux droits de l'homme et d'atteinte à l'environnement, des procédures d'évaluation, des actions adaptées d'atténuation de ces risques ou de prévention des atteintes, et puis un mécanisme d'alerte. Voilà. Et donc tout ça était normalement obligatoire à partir du 1er janvier 2018. Donc on a commencé, donc il y a eu un an de définition et mise en œuvre des plans de vigilance. Et on a les ONG concernées, et dont le collectif éthique sur l'étiquette, ont fait un bilan qui est disponible d'ailleurs sur Internet.
Je rappelle que ces ONG sont Action Aide France Peuple Solidaire, les Amis de la Terre, Amnesty International France, et le CCFD Terres Solidaires, Sherpa et le collectif justement voilà. De l'éthique sur l'étiquette.
Donc ce rapport est maintenant disponible sur Internet. Et force est de constater qu'il n'est pas très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque en particulier concernant les industries, le secteur de l'habillement, aucune entreprise concernée n'a procédé à
un plan de vigilance.
Donc, alors il n'y en a pas 50, il y en a quelques-unes, mais quand même c'est grave. Alors il y a Decathlon qui en a fait un. Et puis, il y a les distributeurs qui en ont fait, notamment Auchan, Carrefour, Casino. Mais, donc, et sur les autres secteurs concernés par la loi, le bilan, là aussi, il y a des entreprises qui n'ont pas fait de plan. Et pour celles qui en ont fait, c'est très insuffisant. Elles se contentent généralement de dupliquer les mesures de responsabilité sociale et environnementale qu'elles avaient, hein, à travers leur code de conduite ou leur charte éthique. Donc elles ont fait du copier-coller, si on peut dire, et c'est pas ce qui est attendu. Hein, c'est pas ça. Donc on est déçus, mais bon, c'est la première année. On peut espérer que ça va s'améliorer. Autre chose aussi, c'est que donc il n'y a pas tellement de dispositifs d'alerte qui est prévu, donc il faut penser aussi à ça pour les prochains plans. Il faut impliquer davantage les parties prenantes. La loi prévoyait que les plans se feraient en concertation avec toutes les parties prenantes. Bon, en général, c'est que la direction de l'entreprise qui a fait ce plan. Elle a peut-être consulté certains acteurs, notamment syndicaux, mais pas vraiment de participation. Donc, voilà, pour l'instant, c'est un bilan qui est décevant, qui est faible, et qu'il faut absolument améliorer.
Et est-ce qu'ils ne revoient pas vers leur impossibilité d'agir en disant ben, « c'est pas nous, c'est les sous-traitants, alors... etc. »
Oui,
et c'est quand même leur responsabilité, je crois que voilà. c'est là qu'il faut, hein, on parle souvent de responsabilité environnementale et sociale, c'est là qu'elles doivent mettre la pression.
Voilà, il faut que les multinationales, les sociétés donneuses d'ordre comprennent qu'il faut absolument pour elles de s'impliquer dans l'évaluation de ce qui se passe sur le terrain et pas se contenter d'engranger les profits et de continuer avec son modèle de gestion à flux tendu, le juste à temps. Ça ne peut pas durer. Il faut que ce système de gestion évolue. Il faut que l'ensemble des acteurs dans la chaîne de sous-traitance soient impliqués. Sinon, il faut que tout le monde avance ensemble. Or, on a le sentiment que les sociétés multinationales ne s'intéressent pas trop, ne veulent pas trop s'intéresser à ce qui se passe réellement sur le terrain, parce que leurs propres fournisseurs et sous-traitants, eux-mêmes, ont des sous-traitants en cascade qui ne sont pas bien identifiés. Donc, pour aller encore plus loin dans le profit et dans la réduction des coûts. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que, véritablement, tous les acteurs et le gouvernement aussi s'impliquent pour dire il faut quand même respecter la mettre en œuvre et la respecter.
Donc il faut des normes contraignantes.
Oui, non mais ça, le débat maintenant sur la RSE, il est clair. On a suffisamment de recul de mise en œuvre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises pour dire que la soft law, les mesures volontaires ne suffisent pas. Tout le monde le reconnaît. Enfin, si on est un peu honnête, on le reconnaît. Alors, il faut. C'est pour ça d'ailleurs que, au niveau international, il y a déjà un certain nombre de pays qui travaillent à des mises en place de législation contraignante pour différents secteurs, différentes mesures. Donc c'est la France est pionnière sur une loi générale, mais il y a des efforts et des actions de fait dans plusieurs pays. Et alors au niveau européen, on est en panne, mais ça sera relancé avec la prochaine mandature, la prochaine législature. Par contre, au niveau international, il y a quand même à l'ONU en discussion un projet de traité contraignants sur les multinationales et leurs responsabilités. Donc, depuis déjà 2014. Bon, ce projet risque de capoter compte tenu de la composition, enfin, de la présence de M. Trump à la tête des États-Unis. Et puis, d'autres pays ne sont pas très chauds non plus, dont l'Union européenne pour l'instant actuellement. Donc, mais enfin, c'est intéressant et important de voir qu'au niveau mondial, il y a une prise de conscience pour dire on peut quand même pas continuer comme ça.
Alors, quand on dit contraignant, est-ce qu'il y a des sanctions financières et est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Parce que quelle est la contrainte que l'on a? Si c'est se dire vous êtes des vilains et puis c'est tout, ou si on les somme de payer quelque chose?
Ben alors, d'abord, dans la loi française, la charge de la preuve reste aux victimes. Donc ça, c'est pas bon. Il faut que ça soit les victimes qui prouvent que c'est la faute de multinationale ou de son fournisseur. Et ensuite, il n'y a qu'une amende au civil et de 10 000 euros. Donc, très, très, très clairement, ce n'est pas des mesures satisfaisantes. Donc ça, c'est les points faibles de la loi. Mais bon, on va commencer à travailler là-dessus. Et puis, il y a des recours qui, quand même, pourront se faire. Donc, on peut espérer que on peut améliorer plus tard la loi. C'est en tout cas le combat que nous allons faire dans les années qui viennent, parce que effectivement, il faut renforcer la loi sur le plan français. Il faut, sur le plan européen, introduire ce type d'obligation et de responsabilité des multinationales au niveau européen, parce que c'est vrai que bon, on est dans une mondialisation, et puis il faut au niveau mondial que ce fameux projet de traité aboutisse. On verra combien de temps ça prendra. Mais je crois que la dynamique est lancée et que voilà, il faut s'inscrire dedans.
Alors, vous avez apporté une autre musique.
Oui, alors, dans le combat qui est mené, il y a le combat du textile, il y a un des vêtements qui est le plus connu, le plus répandu, le plus acheté, qui s'appelle le blue jean. Donc, on vous propose d'écouter un morceau de Lana Del Rey qui s'appelle tout simplement Blue Jean. Thank you.
into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is me.
Oui, alors le collectif de l'éthique sur l'étiquette, donc, s'est donné déjà une stratégie d'action. Et parmi cette stratégie, le premier point, c'est la défense du salaire vital.
Oui, c'est la défense du salaire vital, c'est le soutien et le partenariat avec des syndicats et des ONG du Sud pour justement cette campagne de promotion du salaire vital, notamment au Bangladesh, mais aussi ailleurs, parce que bien entendu.
Oui, parce qu'il parle là-bas de salaires inhumains, hein, les salaires les plus bas. Donc c'est le côté décent et gentil par rapport à ce terme d'inhumain.
Et il faut rappeler que beaucoup de femmes travaillent dans le textile.
80% dans ce sont des femmes.
Tout à fait. Donc oui, donc c'est un axe essentiel, salaire vital. Et le deuxième, c'est le suivi et l'implication dans la loi devoir de vigilance, précisément. Donc on va voir l'évolution des plans de vigilance et voir l'évolution au niveau européen et international de cette dynamique de responsabilisation des multinationales. Il y a aussi la loi PACTE, dont je ne parlerai pas là maintenant, mais qui est importante aussi, le projet de loi sur l'encadrement de l'économie, enfin les nouvelles régulations économiques actuellement en discussion à l'Assemblée, qui vont aussi être intéressantes pour la suite. Donc nous, on va continuer ce travail là-dessus, on écrit aux parlementaires, on essaye d'avoir des rencontres, on va s'impliquer aussi dans le Festisol, le Festival des Solidarités
au mois de novembre.
19, au mois de novembre. On aura l'occasion peut-être d'en reparler avec justement une soirée sur le thème de l'impunité des multinationales pour essayer de faire tomber ce mur de l'impunité.
Alors, on peut trouver le rapport justement qui a été fait sur cette loi du devoir de vigilance sur le site du collectif.
Collectif Éthique sur l'étiquette.
Éthique sur l'étiquette.
Sur étiquette.org.
Voilà, donc rappelons cela à tous nos auditeurs pour se tenir au courant. Je termine donc avec le calendrier de cette fin de mois. Eh bien, samedi 27 et dimanche 28 avril, de 9h à 18h, aura lieu la braderie d'espoir pour un enfant à Pignan, à la salle du bicentenaire. Alors, je rappelle que Espoir pour un enfant accueille chaque année une trentaine de jeunes enfants qui viennent pour se faire soigner à Montpellier, qui sont reçus dans des familles pendant toute la durée des soins et que grâce à cela, ils peuvent revenir chez eux guéris. Donc, c'est très important que la braderie ait du succès. Également, nous avons un festival qui s'appelle le Clapas Gesticulant, qui va se passer à Jacou et à Montpellier du vendredi 26 avril au dimanche 28 avril. Donc le 26 avril, c'est à Jacou, à 18h45 à la MJC Bobby Lapointe. C'est recours après tes droits par Cécile Pastre ou qui sont les assistés. Et à 20h45 au même lieu, Les femmes et les enfants d'abord, par Sinage sur la petite enfance. Ça sera suivi d'un apéro partagé. Et le samedi 27 avril à 10h30 au Gazette Café, Baisse les yeux quand je te parle, c'est sur la violence éducative. Et à 14h30, Bouche cousue et lampe de poche, c'est l'itinéraire d'un spectateur de la parole publique. Suivi à 17h30 au Dôme, de Éloge de la Louse, le refus de parvenir, et à 20h30, Déconne pas Manu, ou pourquoi les jeunes sont à la caution nécessaire d'un système qui déraille. Enfin, ça se termine par le dimanche 28 avril à 11h au CEMEA, Déchets et des hommes, et un atelier zéro déchet, et puis à 14h30, Sois jeune et ou cache-toi. Donc, tout un programme pour ce clapasse gesticulant. Enfin, je vous rappelle que se déroulera en juin, du 19 au 22 juin, le Désertification 2019. C'est un sommet international sur de la société civile sur la terre et la biodiversité et le climat. Ça se passera à Ouagadougou, au Burkina Faso, et c'est organisé par le CARI et SPONG en collaboration avec le secrétariat exécutif de l'ONU pour combattre la désertification. Assisteront bien sûr à ce Désertification le ministre de l'Environnement du Burkina, l'ambassadeur de France au Burkina et de nombreuses ONG. Donc, si vous êtes intéressé, vous vous adressez au CARI, contact@cariassociation.org. À bientôt, chers auditeurs.
Je rappelle juste qu'on est en 2019, c'est les 100 ans de l'OIT, l'Organisation internationale du travail.